Bonjour à toutes et à tous. Dans un instant, c'est l'anglais des chiffres sur LCI en direct comme tous les dimanches. Et je reçois une journaliste et une intellectuelle, Eugénie Bastier, qui est au Figaro, qui vient de publier « La guerre des idées », c'est chez Robert Laffont. Peut-on encore débattre en France ? À l'heure des polémiques, des réseaux sociaux, y a-t-il encore des vraies causes qui puissent mobiliser les intellectuels ? C'est l'une des questions que nous explorerons ensemble, avec bien sûr le commentaire de l'actualité de la semaine révolue et de celle qui pointe. Tout ça, c'est dans un instant, c'est en direct sur LCI. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'anglais des chiffres. Tous les dimanches, je reçois un témoin de l'actualité, un ou une témoin de l'actualité. Et aujourd'hui, c'est Eugénie Bastier. Bienvenue.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir. Vous êtes journaliste, vous êtes intellectuel, vous êtes journaliste au Figaro, aux pages débats et opinions du Figaro. Vous êtes l'une des voix en France, j'allais dire, du conservatisme moderne. C'est un peu un oxymore, mais ça me semble bien vous définir quand même, à la fois au plan sociétal, au plan politique. Et vous venez de publier votre troisième livre qui s'appelle « La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française ». C'est chez Robert Laffont, vous l'avez publié le mois dernier. Avant qu'on ne fasse le tour des sujets d'actualité, un conservateur ou une conservatrice, ça conserve quoi ?
Très bonne question. Je crois que d'abord, c'est plutôt un état d'esprit, être conservateur. C'est de se dire que finalement, on ne croit pas à une vision idéologique du progrès comme un sens de l'histoire irréductible et irrémédiable qui irait, des sociétés qui iraient finalement vers toujours plus de droits individuels, de progrès. Mais on regarde finalement l'héritage comme quelque chose, une solution qui a été apportée du passé et qui ne convient pas de balayer d'un revers de main, mais d'examiner ce qu'il faut, comme le disait Benjamin Disraeli, conserver ce qui vaut, réformer ce qu'il faut. Pour moi, c'est ça la définition du conservatisme. C'est cette espèce de...
C'est-à-dire qu'il y a des invariants auxquels vous êtes attachés.
Oui, et je crois qu'il y a des invariants de la condition humaine. C'est-à-dire que une certaine gauche progressiste considère finalement que l'homme serait naturellement bon et que la société finalement le corromprait et qu'il faudrait donc réformer cette société sans cesse. Moi, je crois à l'inverse, quand on est conservateur, on croit que finalement la frontière du bien et du mal traverse les êtres et les sociétés, qu'il n'y a pas d'un côté le camp des méchants, le camp des gentils, qu'il n'y a pas un progrès comme ça qui avancerait dans l'histoire et qui balayerait l'ancien monde. Mais on est prudent. Je pense que la prudence est une vertu conservatrice et la transmission, l'héritage sont aussi des valeurs cardinales du conservatisme.
Ça n'a rien à voir avec la nostalgie du passé ?
Non. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas nostalgique puisque je suis née dans un monde... qui était déjà un monde, qui n'avait rien à voir avec le monde des Trente Glorieuses ou une époque...
Vous êtes né en 91.
En 91, c'était déjà, on était déjà dans une période où il y avait les problèmes, les crises que nous traversons aujourd'hui étaient déjà en germe, en tout cas déjà là. Donc je n'ai pas la nostalgie, comme peuvent l'avoir certaines personnes d'une autre génération, pour une époque qui était la leur enfance, où effectivement la France était... au fait était une grande puissance industrielle, oui. Où il y avait le plein emploi, où la France tenait son rang dans le monde. Moi, j'ai pas vraiment cette nostalgie-là, parce que j'ai jamais connu cette période. Je suis dans un monde, et j'ai grandi, puisque en fait, je suis née en 1991, mais j'ai grandi dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et un monde qui était conflictuel, et de plus en plus conflictuel, avec des crises, le retour du terrorisme, crise économique, crise du ce qu'on appelle le vivre ensemble, et donc, effectivement, j'ai pas la nostalgie d'une époque bénie que je n'ai jamais connue.
Vous publiez donc La guerre des idées. Est-ce qu'on peut encore débattre en France à l'heure des réseaux sociaux où finalement on a l'impression que le débat est à la fois permanent et un peu stérile parce qu'il est oblitéré par des polémiques quelquefois très vaines ou en tout cas très violentes. Et est-ce qu'on peut encore faire valoir, défendre ses idées pour changer le monde aujourd'hui ?
Alors, je crois que notre époque se caractérise à la fois par un débat fécond, dans le sens où il y a différentes options idéologiques qui sont sur la table. Et en fait, il y a des gens qui pensent très différemment dans le débat public, qui ont la parole et qui interprètent le monde. Ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et ces paroles coexistent dans le débat public. Et en même temps, ce plus grand pluralisme est aussi... en parallèle, il y a une montée du sectarisme et de l'ostracisme parce que ces visions du monde très différentes ne disent dialogue pas entre elles et chacun en fait s'adresse à son public.
C'est nouveau ça.
Et je pense que c'est assez nouveau dans le sens où, en tout cas, c'est nouveau par rapport à la période juste précédente, qui était la période des années 80-90. On a un peu l'illusion d'un débat pacifié. C'était évidemment le règne de la fin de l'histoire, hein, les démocraties.
Une certaine unanimité.
Voilà, une illusion du consensus, ouais. En fait. On allait... Il n'y aura plus de conflits, plus de guerres, à la fois plus de guerres physiques et plus de guerres intellectuelles. Finalement, on allait tous bien s'entendre. Et là, on a un retour des sujets qui fâchent et donc des visions du monde antagonistes. Et c'est vrai, vous l'avez dit, ce qui est nouveau, je pense, par rapport à des périodes précédentes, parce que la conflictualité intellectuelle a toujours existé dans le débat d'idées, mais ce qui est nouveau, c'est ces réseaux sociaux, effectivement, cet écosystème médiatique qui laisse beaucoup de place à l'émotion et moins à la raison. Et la raison est quand même fondatrice du débat. C'est-à-dire que le débat, c'est un échange d'arguments raisonnés et qui exige à la fois de la raison et de l'abstraction. C'est-à-dire que débattre, c'est généraliser, c'est dire des phrases, essayer de tirer des cas particuliers une abstraction. Et les réseaux sociaux font l'inverse, puisqu'ils mettent en avant l'émotion et le cas particulier, le témoignage. C'est le règne du moi-je. Voilà, moi, j'ai été victime de ceci, moi, je m'indigne, etc. Et donc, ça rend très difficile les conditions d'exercice du débat qui exigent effectivement à la fois raison, abstraction et la lenteur aussi. Et la lenteur, elle n'existe plus aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Effectivement, les polémiques s'enchaînent à une vitesse effroyable.
Est-ce que ça veut dire que les intellectuels n'ont plus de pouvoir, ou au moins plus le pouvoir qu'ils avaient à une époque que vous n'avez pas connue, mais qui était justement celle des Trente Glorieuses, celle de l'intellectuel engagé, qui avait le sentiment d'être non pas le guide, mais en tout cas une petite lumière pour justement éclairer au fond la marche des choses.
Oui, je pense que... En fait, oui, les intellectuels ont perdu le monopole de ce rôle qui était d'interpréter le monde, de l'analyser et de s'engager pour des causes, puisque aujourd'hui, tout le monde, finalement, avec les réseaux sociaux, est un petit intellectuel, est un petit Zola, oui. Par exemple. Tout le monde a son J'accuse à portrait de smartphone.
C'est la phrase la plus moderne qui soit. Ouais,
exactement. L'intellectuel Stéphane Hessel avait publié un petit pamphlet qui s'appelait « Indignez-vous » en 2010, qui était le livre probablement un des essais les plus vendus de la décennie.
Près d'un million d'exemplaires, je crois.
Près d'un million d'exemplaires, d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que « Indignez-vous », finalement, ça, c'est peut-être le mot d'ordre des réseaux sociaux qui s'est réalisé finalement par Twitter, Facebook, où effectivement, le mot d'ordre, c'est « Indignez-vous » de façon intransitive, pour rien. Et effectivement, donc, les intellectuels ont perdu ce rôle de médiation, d'engagement, peut-être, mais... Je pense qu'on a besoin quand même d'eux pour un nouveau rôle qui est celui justement davantage de recul, d'apporter de la nuance, d'apporter une forme de lenteur, une forme de distance critique. Et donc, ils n'ont jamais, paradoxalement, été aussi nécessaires. On n'a jamais eu autant besoin, face d'ailleurs à une montée aussi, parce qu'à la fois, c'est une montée des réseaux sociaux et de l'émotion, et la montée d'un discours d'expertise extrêmement froid, avec des experts, que ce soit des technocrates, des économistes, qui ont un discours... très chiffrés, etc., mais qui n'ont pas... On a besoin d'une parole intellectuelle qui se libère à la fois de la tyrannie de l'émotion et de celle de l'expertise.
Je reviens à ce mot d'indignation. Si l'époque est si prompte à s'indigner, est-ce que c'est à cause de ses caractéristiques, au fond, de la montée des inégalités, par exemple, ou bien est-ce que c'est parce que, justement, l'indignation a désormais un conduit avec les réseaux sociaux qui la font résonner?
Je crois que c'est les deux. Enfin, on ne peut pas... C'est très difficile de distinguer le médium de l'objet. C'est comme, les guerres de religion étaient accélérées par l'invention de l'imprimerie. Elles ont même été déclenchées par ça, puisque finalement, le schisme a pu se développer en Occident grâce à l'imprimerie. Donc le médium a eu un rôle déterminant, mais en même temps, au départ, ce schisme a été créé aussi par les inégalités, par le fait que l'Église catholique était hypocrite, etc. Il y avait ces défauts qui ont été dénoncés par Luther, etc. Donc il y avait une raison, et le médium a accéléré. C'est plus un accélérateur. Et de même, aujourd'hui, on peut pas... Moi, je suis un peu agacée par ce discours qui dit, par exemple, l'émeute du Capitole, c'est le résultat des réseaux sociaux, Trump, c'est le résultat des réseaux sociaux, ce qui fait abstraction, en fait, du fait qu'à la base, il y a quand même des inégalités criantes, que le Trumpisme, c'est le résultat d'un échec de la mondialisation libérale qui a créé des inégalités dans les classes moyennes occidentales, même si elle a permis de sortir de la pauvreté plein de populations. Et je pense qu'on ne peut pas faire dire c'est que la faute des réseaux sociaux qui créent ex nihilo des colères, des révoltes qui n'ont pas de raison d'être.
Vous faites la comparaison avec l'imprimerie. L'imprimerie, ça a aussi été un support très précieux pour les intellectuels parce que ça a permis de diffuser la pensée et au fond de nourrir le débat. Est-ce que les réseaux sociaux vont pouvoir faire la même chose après une phase d'apprentissage ?
Je le souhaite. Je trouve que ce qui est compliqué sur les réseaux sociaux, c'est que c'est, c'est un médium qui raccourcit énormément la pensée, que ce soit. Alain Finkielkraut parlait récemment de culture de l'extrait. On raccourcit un passage vidéo, etc., qu'on met sur les réseaux sociaux, ou même un tweet, c'est extrêmement court. Et donc, je pense que le travail intellectuel et l'invention du livre, justement, a été un médium qui permettait justement l'éclaircissement de la pensée, le temps long. Parce que pour écrire un livre, effectivement.
Pour lire,
on prend son temps. Ça nécessite une implication du lecteur. On est beaucoup moins passif que devant un écran. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très complexe. Moi, par exemple, pourquoi j'ai écrit un livre, c'est parce que je trouve que ça permet d'avancer, de se construire soi-même une opinion, d'éclaircir des choses qu'on n'avait pas forcément creusées et qu'on ne peut pas faire quand on n'est que sur les réseaux sociaux ou en vidéo. Je trouve qu'il y a une pratique de l'écriture et du livre qui, si elle disparaît, m'inquiète pour la pensée, parce que la pensée sans livre, je ne sais pas trop ce que ça peut donner.
Cette semaine, l'actualité, c'était bien sûr l'enterrement du prince Philippe, le duc d'Édimbourg. Okay. Hélène Grégoire était présente lors de justement cette cérémonie et nous la restitue.
Seul, après 73 ans de mariage, devant le cercueil de celui qui lui a fait la promesse d'être toujours trois pas derrière elle, la reine, qui s'interdit toute émotion visible, laisse imaginer son chagrin, la tête baissée. Dans la chapelle Saint-Georges, ce ne sont pas les mots qui expriment l'émotion de la famille royale, mais leur regard, la gravité, visible. L'hommage est magnifiquement simple. Très attaché à son passé de vétéran, comme il l'a décidé, ses funérailles ont une tonalité et une précision très militaires. Chaque corps d'armée où il a servi est représenté et s'incline aujourd'hui. Seuls objets intimes, sa casquette et sa calèche dans laquelle il aimait promener ses petits-enfants. Ils sont là en procession dans la cour de Windsor, derrière les quatre enfants d'Elisabeth II et du prince Philippe. Ce sont les premières images de la reine depuis le décès de son époux. Elle ferme le cortège dans sa voiture. Habituellement vêtue des couleurs vives pour être distinguée dans la foule, c'est la seule occasion où elle porte une tenue noire. La reine apparaît alors comme une épouse de 95 ans en deuil. La cornemuse quitte symboliquement l'église alors que le cercueil descend dans la crypte royale, loin des caméras. Il sera inhumé seulement aux côtés de son épouse Elisabeth II à sa mort.
Des obsèques suivies dans le monde entier, la monarchie est au seuil d'un renouvellement immanquable, vu l'âge vénérable de la reine. Pour vous, est-ce qu'il vous semble que cette institution peut survivre à la modernité, justement, pour vous, pardon, de vous renvoyer cette épithète, qui est une conservatrice?
Écoutez, moi, je pense que c'est une institution qui a encore son utilité. Et je pense que ça fait partie, aujourd'hui, de la grandeur, même de la cohésion du peuple britannique, d'avoir cette famille, cette famille royale qui donne, finalement, un sentiment d'unité qui traverse le temps, qui traverse les clivages politiques, puisqu'ils ont une adhésion énorme dans la population.
Considérable,
tout, qui ne s'est pas démenti.
Y compris chez les jeunes, d'ailleurs.
Y compris chez les jeunes. Et c'est vrai quand on compare avec la France, où effectivement on a un président, une monarchie présidentielle, un président de la République, mais qui n'est élu que par 20% des Français, puisque aujourd'hui, vu le taux d'abstention et le second tour, donc on voit la crise de légitimité terrible dans laquelle est notre démocratie, on se prend presque à envier ce système britannique où effectivement il y a d'un côté la politique avec les partis, les élections, etc. Et cette figure intemporelle qui incarne la continuité historique de l'Angleterre. Et c'est absolument fascinant parce que quand on regarde la vie de cette reine, en fait, c'est vraiment... Elle a traversé le XXe siècle. Elle a connu Churchill, le général de Gaulle. Et là, elle est avec Boris Johnson, le Brexit, le Covid. Cette continuité historique est absolument fascinante face à nos quinquennats saccadés où on a l'impression de jongler de crise en crise et sans véritablement de continuité.
Est-ce qu'on n'a pas en France, justement, un équivalent d'une autre nature, un élément d'identité qui permette aux Français... justement de faire peuple, La République, par exemple.
Je pense qu'on avait la République, mais qu'aujourd'hui, cet item République est en crise parce que, effectivement, déjà, il est très désincarné. Parce que la République, c'est un concept abstrait. Avec une famille royale, c'est par définition incarné. Et je pense que on ne peut aimer et on ne peut admirer que ce qui a vraiment une incarnation. Et c'est difficile de donner un sens à ce mot République, qui en a eu un, effectivement, sous la Troisième République, où justement c'était très incarné à travers les hussards noirs de la République, à travers le drapeau, la patrie. On donnait à aimer des choses concrètes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que République est un peu un mot qu'on lance dans le débat public, mais qui ne recouvre pas vraiment de réalité charnelle ou incarnée. Et c'est ça qui le rend difficile quand on... Effectivement, il faut aimer protéger la République, mais on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Tandis que quand on dit la reine, c'est un visage, c'est une histoire, et c'est ça qui marche, en fait.
Cette semaine, en France, c'était aussi le passage d'un cap douloureux, celui des 100 000 morts de l'épidémie de Covid. La France rejoint donc la liste des pays qui ont dépassé ce cap. Des pays qui, pour l'essentiel, ou pour beaucoup en tout cas, sont des pays occidentaux et singulièrement européens. Contrairement aux pays d'Asie qui ont réussi à juguler l'épidémie à force de coercition, hein, parfois très, très violente, isolement des malades, fermeture des frontières. Est-ce qu'au fond, il vous semble qu'il y a dans cette épidémie, ou au moins dans sa persistance en Occident, le symptôme de la difficulté des sociétés occidentales individualistes à accepter des mesures de coercition qui permettent la survie du groupe ?
Je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, si on a beaucoup de morts en Occident, c'est d'abord parce qu'on est une population très âgée qui, effectivement, est touchée de plein fouet par cette maladie.
C'est l'Italie, par exemple, bien sûr.
Voilà, l'Italie. Enfin, même, c'est l'Europe vieillissante, en fait, et l'Occident vieillissant, parce que d'autres parties du monde sont jusqu'à présent épargnées aussi parce qu'elles ont une population plus jeune. Et je pense, oui, on peut faire ce procès de la liberté et de la démocratie qui serait faible face au péril. Je remarque d'ailleurs que c'est un peu le procès qu'on a fait, qu'on faisait aux démocraties dans les années 30, en disant qu'elles étaient qu'elles seraient incapables de finalement de faire face à la crise économique parce qu'elles étaient trop faibles et que.
Vrai que les régimes autoritaires réussissaient mieux dans les années 30, 32,
33. Et donc il fallait un retour de. On disait que les démocraties ne gagneraient jamais la guerre. Ne gagnerait jamais la guerre parce qu'effectivement, elles étaient amollies, etc. Et on s'est rendu compte qu'elles ont réussi quand même à gagner la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai envie de dire, faisons les comptes à la fin. Et effectivement, on paye un lourd tribut à cette épidémie. Mais en même temps, je pense que on a voulu aussi conserver nos valeurs et le fait de rester dans un régime démocratique. Et je remarque d'ailleurs certains technolibéraux, je les appellerais comme ça, un peu béats, font les yeux de chimène à la Chine, alors qu'ils sont censés être libéraux, justement, mais ils admirent les prouesses technologiques de la Chine, ils admirent la manière dont ils ont géré d'une main de fer cette épidémie et évité, finalement, une hécatombe. Mais en même temps, ça se paye par l'absence totale de démocratie, une opacité totale au début de l'épidémie qui a quand même été responsable de sa diffusion dans le monde entier. Voilà, aujourd'hui encore, une absence de transparence sur les enquêtes internationales menées sur l'épidémie.
C'est vrai. Cela dit, en Asie, vous avez aussi des démocraties qui ont réussi à vaincre le virus. Il y a la Corée du Sud, où on vote, Taïwan, où on vote. Vous avez même des pays occidentaux, ou presque, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, où on a mis en œuvre ces mesures un peu plus strictes. Pour autant, ce sont des pays libres.
C'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux modèles. Et d'ailleurs, Foucault, on parlait déjà, Michel Foucault, dans « Surveiller et punir », il mettait en évidence deux modèles pour lutter contre l'épidémie, parce qu'il part du principe de l'épidémie pour définir ce qu'il appelle le biopouvoir, c'est-à-dire l'emprise de l'État dans nos vies. Il dit il y a deux modèles, il y a le modèle de la lèpre et le modèle de la peste. Le modèle de la lèpre, c'est vous excluer le malade de la cité, vous le mettez hors de la cité pour que la cité puisse continuer à vivre. Le modèle de la peste, c'est vous installer le quadrillage, le confinement, en fait, la surveillance généralisée. Et nous, c'est vrai qu'on a on a choisi le modèle de la peste plutôt que celui de la lèpre, qui aurait consisté à cibler les malades, à vraiment mettre en place le tester, tracé, isolé, qu'on n'a pas jamais réussi à mettre en place, parce qu'on s'en est pas donné les moyens. Et donc, du coup, on aboutit à la pénalisation de tout le monde et un régime de surveillance généralisée plutôt que d'essayer de mettre en place des mesures plus ciblées, ce qu'on réussit à faire la Corée du Sud, Taïwan, c'est-à-dire de mettre en place cette stratégie testée, tracée, isolée. Et pour nous, oui, c'est sûr que ça a été un échec de ce point de vue-là, et ça montre aussi une forme d'impuissance de l'État.
Il y a bien sûr la question des frontières. On a vu une quasi-impossibilité à fermer les frontières en Europe, même les frontières extérieures. Je vous propose qu'on écoute Jean-Baptiste Djebbari, c'est le ministre délégué au transport, qui parlait, c'était il y a quelques jours, justement, de la frontière avec le Brésil.
Pourquoi on a gardé ces lignes ? Parce que c'est imposé par le droit. C'est que le Conseil d'État nous a dit que les ressortissants français et les résidents en France, au nom de la liberté de circulation, devaient pouvoir continuer à venir. Raison pour laquelle, et ce n'a pas été fait par exemple au Portugal ou dans d'autres pays, raison pour laquelle nous avons encore renforcé le protocole sanitaire et gardé quelques lignes, mais encore une fois, je le dis, c'est 50 personnes par jour qui rentrent sur le territoire français. Le Brésilien qui rentre, il a un motif impérieux, il a un test PCR négatif et il a possiblement un test antigénique à l'arrivée, donc il est contrôlé sur le plan sanitaire. Donc pour les motifs impérieux, professionnels impérieux, mais qui sont quand même très très restreints, cela est encore possible.
Depuis, la position française a évolué, elle s'est durcie, notamment ce week-end, puisqu'on impose désormais une quarantaine, une quarantaine qui semble à peu près surveillée. Est-ce qu'il n'y a pas un tabou, là aussi, en Europe, sur ces frontières ?
Oui, il y a un tabou. Et puis,
on ne veut pas fermer les frontières.
M. Djebari dit, voilà, le droit ne le permet pas. Il y a toujours cette espèce d'idée que, finalement, on reste dans les rails d'une commission étant dans une situation normale. Il fallait appliquer les règles de façon juridique absolue, alors qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et en fait, cette idée un peu « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative. C'est comme ça, le régime juridique est comme ça. Et on ne peut pas bousculer les règles, l'espèce de schéma mental dans lequel on est depuis des années. Et on voit finalement, ils ont fini par fermer les frontières, que c'était possible. Et je me souviens très bien qu'au début de l'épidémie, il y a un an, en mars dernier, quand Trump avait fermé les frontières des États-Unis immédiatement, il y avait eu vraiment une indignation des responsables occidentaux en disant que c'était irresponsable de sa part de faire ça, qu'il avait précipité la chute des bourses qui s'étaient effondrées suite à son geste. On l'avait presque rendu coupable, alors qu'effectivement, tout le monde ensuite a suivi ce mouvement-là, parce que c'est effectivement un geste élémentaire en cas d'épidémie.
Du bon sens,
Et la phrase la plus stupide qui était prononcée pendant cette épidémie, c'est celle d'Emmanuel Macron qui disait « le virus n'a pas de passeport ». C'est idiot, parce qu'il est sur des gens qui ont des passeports et qu'effectivement, on peut empêcher d'entrer. C'est ce qu'on fait, vous avez citer l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Bon, ce sont des îles, donc c'est plus simple. Mais elles ont suspendu intégralement leurs frontières et renvoyé d'ailleurs tous les ressortissants qui étaient sur leur sol chez eux. Effectivement, je pense que là, il y a un tabou qui a été brisé, enfin, qui a encore du mal à être brisé par les Européens, mais en tout cas, il y aura un avant et après Covid de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la frontière est redevenue un outil de politique publique qu'on peut utiliser pour se protéger.
Donc là, il y a vraiment un point de bascule, vous pensez ?
Je pense qu'il y a un point de bascule et je souhaite d'ailleurs qu'il soit pérenne, parce qu'effectivement, c'était de se priver des frontières qui sont quand même l'une des armes les plus à la disposition de l'État, les plus facilement utilisables, non, mais qu'elle peut utiliser pour protéger son territoire et sa population.
C'est le périmètre de l'exercice du
droit
régalien, au fond.
Et en fait, se priver de cette arme élémentaire était complètement stupide. Et je pense que oui, il y aura un avant et un après, parce qu'on a montré que c'était possible, en tout cas, de les rétablir. Et que c'est la fin de l'illusion transfrontiériste qui a pu régner pendant longtemps, en disant finalement, on n'a pas le choix. De toute façon, on est dans un village global, c'est la mondialisation. Les frontières, ça n'a plus aucun sens à l'heure d'Internet, à l'heure des flux, etc. Enfin, il y avait ce discours-là quand même qui disait que n'avait plus de sens de parler de frontières. Eh bien, on voit que, en fait, oui, ça a eu du sens et que c'est possible de rétablir les frontières sur un point ou sur un événement précis.
Sur un tout autre sujet, il y a 8 jours, le président de la République annonçait la réforme de l'ENA, l'École nationale d'administration qui forme les hauts fonctionnaires. Pour vous, c'est une nécessité véritable ou bien c'est un coup politique destiné à montrer que les réformes continuent et qu'au fond, l'ADN, comme on dit, du président réformateur n'a pas été amolli par l'épidémie ?
Pour le coup, je trouve cette décision d'Emmanuel Macron très populiste. Lui qui justement se donnait le rôle de combattre le populisme, c'est une décision très populiste parce que elle est démagogique, elle ne répond en rien à la crise démocratique. Quand on regarde le nombre d'énarques qui étaient chaque année, c'était 80 personnes chaque année qui sortaient de l'ENA, moins que le nombre de prêtres ordonnés en France chaque année, qui font une institution qui est aussi en crise, l'Église catholique, comme l'a remarqué Xavier Patier dans le Figaro. C'est quand même, ça fait un petit nombre de personnes qui ne constituent pas du tout l'intégralité de notre élite. Et d'ailleurs, on parle de moule et de formatage. Les gens qui sortaient de l'ENA, il y en a eu des très différents. Il y a Emmanuel Macron, mais il y a aussi Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, même Florian Philippot qui sortait de l'ENA. Donc on voit que les parcours des énarques étaient quand même différents.
Assez divergents. Ouais.
Je crois que moi, l'ENA avait son utilité, qui était de former à cette idée d'un sens de l'État, de l'intérêt général, de trouver une filière d'excellence vers le public, vers le service public, Et je crois que ce qui va le remplacer, l'Institut supérieur de l'ISP, l'Institut supérieur de politique, je ne sais plus. En tout cas, le mot national de l'École nationale d'administration a disparu. Donc moi, je trouve ça déjà un mauvais signe quand le mot national disparaît, parce que c'était des gens qui étaient formés à l'intérêt national et au sens de l'État. Et en plus, je m'inquiète un peu de ces procédures, cette idée d'introduire le critère de la diversité dans le recrutement, parce que je pense que ce qu'on cherche à l'ENA, c'était les meilleurs pour gouverner. Et à partir du moment où on introduit ce critère de diversité, comment on va choisir les gens? Est-ce que, par exemple, en médecine, quand on choisit les meilleurs chirurgiens, les meilleurs médecins, on introduit ce critère de diversité ou de parité? Non, on choisit juste les meilleurs sur concours. Je ne crois pas que le but de l'ENA soit d'être représentatif. Le but, c'est vraiment de former les meilleurs pour servir l'État.
Sans doute, mais la reproduction sociale, c'est quand même un sujet. Dans les grandes écoles, pas spécifiquement à l'État d'ailleurs, il y a une étude récente qui est de l'IPP, l'Institut des politiques publiques, qui montrait que 65% des élèves des grandes écoles, les 200 grandes écoles françaises, venaient de milieux très favorisés. Mmh. C'est un sujet dont le politique doit se saisir pour tenter de le corriger.
L'ENA, c'est le point d'arrivée. On ne va pas traiter le sujet par le bout du tuyau, alors que effectivement les gens qui arrivent à l'ENA, c'est déjà les gens que...
Vous voulez dire qu'il faut s'y prendre?
Bien sûr, il faut s'y prendre dès la maternelle, le primaire, c'est là que tout se joue. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer avait commencé à essayer de s'attaquer, finalement, à faire des réformes sur le contenu des cours, remettre des fondamentaux, etc. Je crois que ça se joue beaucoup plus tôt, le manque de diversité et le lâchage, finalement, d'une partie de la population qui ne suit plus les études. Et ces inégalités-là perdurent parce que ça se joue bien avant l'ENA, qui est vraiment le bout, ce serait complètement illusoire que justement mettre des critères de diversité au bout pour accueillir des gens qui n'ont pas justement atteint le niveau pour passer ces concours. Ce qu'il faut, c'est s'attaquer au début, c'est-à-dire le primaire, le collège, pour qu'ensuite former des gens qui puissent réussir ce concours-là. Et c'est le principe même de la méritocratie, et c'est ça qui est en panne aujourd'hui.
Cette semaine, c'était aussi l'affaire Evian. La marque a publié un tweet exhortant les consommateurs à boire de l'eau. C'était mardi, le premier jour du Ramadan, qui prescrit évidemment le jeûne absolu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'ingérer même de l'eau. Du coup, tempête dans un verre d'Evian, si je puis dire, et au point que la marque publie un tweet peu après où elle s'excuse d'avoir pu offenser quiconque. On va écouter Sarah El Haïry, qui est secrétaire d'État à la jeunesse, qui commentait justement cette affaire, c'était cette semaine.
Mais c'est absolument dingue. C'est dingue, et en même temps, ça dit quelque chose de notre pays. Twitter n'est pas la vraie vie. Twitter n'est pas la vraie pensée des Français. Il se trouve que sur Twitter, il y a une sorte de sphère d'islamo-gauchistes qui volontairement pousse à la repentance, à la victimisation. Et on réussit à faire douter Evian. C'est ça qui est dingue. Et moi, franchement, j'en suis triste, en fait, de ces excuses. Parce que, oui, dans notre pays, on fait de la publicité. Et quand on est une entreprise d'eau, eh bien oui, on vend de l'eau. Et personne n'a besoin de se sentir offensé.
Bon, ça doit être du miel à vos oreilles.
Oui, alors moi, je pense je pense que Evian a eu tort de réagir finalement, il y avait quelques tweets qui dénonçaient ce tweet comme offensant. Mais ce qui est plus révélateur, je pense, c'est la réaction d'Evian qui retire son tweet, que même les offensés d'Internet. Il y en aura toujours des offensés pour le moindre tweet, etc. Mais que Evian se sente obligé de réagir, ça, c'est révélateur, je pense, déjà de cette volonté de ne jamais cliver, de ne vouloir jamais offenser.
Bah, Evian, et cette soumission de perdre du business.
Oui, voilà, de soumission politiquement correcte, et qui est aussi... je trouve qu'il y a de plus en plus de multinationales qui adhèrent un peu à ce qu'on appelle le wokisme, cette espèce de progressisme identitaire qui promeut ce droit à ne pas être offensé, qui fait ce qu'on appelle en bon anglais du virtue signaling, du signalement vertueux, c'est-à-dire montrer que on est du bon côté de l'histoire. Et beaucoup de marques s'engagent de plus en plus. On en a vu beaucoup. Toutes les grandes multinationales ont soutenu le mouvement Black Lives Matter. On a même eu Uber Eats qui a enlevé ses frais de livraison pour les restaurants qui appartenaient aux Noirs. Évidemment, c'est une manière facile pour les marques de s'acheter une bonne conscience, finalement, plutôt que de payer raisonnablement leurs employés. Toutes ces entreprises préfèrent afficher qu'elles sont du bon côté de l'histoire, du côté de ce mouvement qui prisait dans la jeunesse identitaire. Et je trouve ça regrettable, parce qu'en fait, On voit que déjà que ces mouvements-là ne sont pas si anti-système que ça, puisque quasiment l'ensemble des multinationales les soutiennent. On voit vraiment que, voilà, qu'on veut gagner des parts de marché et donc accélérer finalement cette différenciation identitaire qui permet de vendre aussi.
Sur le fond, le politiquement correct au fond, est-ce que ça n'est pas aussi justement le fait de se mettre à la place de l'autre et des offenses qu'il peut sembler, justement, qu'il peut ressentir? Au fond, la politesse, la civilisation, est-ce que ça n'est pas aussi du politiquement correct si on pousse l'idée jusqu'au bout? Je veux vous dire par là, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de noble dans ce souci de ne pas vouloir offenser l'autre dans ses croyances? Même si je partage en partie votre moquerie vis-à-vis des entreprises qui semblent faire le bien alors qu'en réalité leurs préoccupations sont largement commerciales. Mais sur le fond, le fait de se soucier de l'autre et de sa différence, bon, c'est quand même pas si mal.
Mais moi, je crois que c'est très différent parce que le souci du... Enfin, ce qui est important dans politiquement correct, c'est le mot politique. Pour moi, le mot politiquement correct, c'est de finalement politiser chaque question. C'est d'en faire finalement quelque chose d'éminemment important, gravissime. Et par exemple, pour moi, c'est la politisation de l'ensemble de la vie sociale et notamment du langage. C'est-à-dire quand vous dites quelque chose... Finalement, quand vous dites, par exemple, quand vous utilisez certains mots, vous blessez des gens et vous avez une vision politique derrière du monde. Et donc, le langage lui-même est politique. Et donc, il faut réformer le langage, il faut l'euphémiser, il faut ne pas nommer les choses pour ne pas vexer, etc. Et je crois que c'est très différent d'un souci élémentaire de politesse et de civilité qui est effectivement l'idée que... et qui est tout le travail de la civilisation, qui est de transformer les pulsions violentes en quelque chose transformer justement la guerre civile en guerre des idées, en arguments, voilà, en argumentation, en essayant de rester poli, mais ne pas évacuer certains sujets de la table. C'est ça le politiquement correct. Le problème, c'est qu'on met des sujets sous la table et qu'on refuse de nommer les choses, on refuse d'en parler. Et d'un autre côté, on ultra-politise certaines questions. Par exemple, la question du langage. Effectivement, par exemple, le politiquement correct est né dans les années 90 aux États-Unis. C'est tous ces mouvements très radicaux de la gauche militante américaine et qui finalement décident de réformer le langage. Par exemple, on ne dit plus « chairman ». C'est le président en américain, « chairman », on dit « chair person » parce qu'il faut enlever « man », etc. Et donc on ne dit plus « black », on dit « afro-american ». Enfin, ça commence comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, c'est l'écriture inclusive, par exemple, qui est pour moi le summum du politiquement correct. C'est-à-dire cette idée de réformer le langage pour réformer la société. Et je crois que... Evian, c'est un peu là-dedans. C'est-à-dire que dire que finalement, derrière, tout est politique. C'est-à-dire le fait de boire une bouteille d'eau, tout de suite, on politise la chose, on la dramatise à l'excès, etc. C'est une espèce de dramatisation de tous les aspects de la vie sociale. Et je trouve ça...
Ça obscurcit le débat, au fond.
Ça obscurcit énormément le débat. Et je pense que... Voilà, aussi, le politiquement correct, un des mots d'ordre des années 60 de radicalité politique qui est en train de revenir aujourd'hui, que j'explique dans mon livre, c'est l'idée que le privé est politique. C'est-à-dire que tout est politique, y compris ce qu'on fait dans sa chambre à coucher, ce qu'on fait dans sa cuisine, le partage des tâches ménagères, la langue, on l'a dit, la manière, ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Tout est politique. Et cette distinction, à mon avis, qui était un avancé civilisationnel entre le privé et le politique, qui est au cœur... du libéralisme politique occidental, est en train d'être aboli, c'est-à-dire que tout devient politique, et le politiquement correct est une des facettes de ce phénomène.
Jeudi, à Minneapolis, c'était la fin du procès du policier qui a interpellé et tué, semble-t-il, George Floyd, justement un noir américain. C'est Catherine Gentil qui nous fait le récit de cette affaire qui a enflammé l'Amérique.
Tout le monde attendait son témoignage, mais finalement, Derek Chauvin, le policier accusé d'être responsable de la mort de George Floyd, a décidé d'invoquer son droit au 5e amendement. C'est un droit qui est accordé à tout accusé ici aux États-Unis, celui de ne pas apporter de témoignage qui risquerait de s'auto-incriminer. Alors on ne connaîtra pas la version personnelle de Derek Chauvin, mais l'on sait que la défense va essayer de prouver et de convaincre les jurés que George Floyd est mort parce qu'il était drogué et qu'il avait des problèmes cardiaques, et non pas parce qu'il a été asphyxié par Derek Chauvin qui a maintenu son genou sur son cou durant plus de 9 minutes. Alors en tout cas, maintenant les débats sont terminés, les réquisitions et la plaidoirie auront lieu lundi, ensuite les jurés vont se retirer pour délibérer. Derek Chauvin risque jusqu'à 40 ans de prison. On attend le verdict d'ici la fin du mois, c'est-à-dire un peu moins d'un an après la mort de George Floyd, qui avait provoqué une vague de protestations non seulement ici aux États-Unis, mais à travers le monde.
Même si on est contre le mouvement déracisé, contre le déboulonnage des statuts de Colbert, par exemple, hein, qu'on accuse d'avoir réglementé et donc autorisé l'esclavage. La réalité est là, le monde actuel est encore profondément raciste.
Alors déjà, je crois que on vit ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de Tocqueville. Vous savez, Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, dit finalement, dans un plus un régime, une société est égalitaire, plus l'inégalité blesse l'œil. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a jamais probablement, les sociétés occidentales n'ont jamais probablement été aussi peu racistes. Et effectivement, l'antiracisme est déculpé, n'a jamais été aussi virulent. Et ce paradoxe s'explique parce que voilà, plus il y a d'égalité, plus l'inégalité blesse, et plus effectivement,
donc, c'est une affaire de perception.
Et plus un meurtre comme celui de George Floyd est insupportable, effectivement, dans une société qui prône l'inverse. Je pense que...
Il y a 50 ans, probablement, il serait passé inaperçu, ce
meurtre. Tout à fait,
meurtre.
Évidemment. Après, évidemment, moi, ce que je reproche, c'est effectivement, la vague d'indignation, elle est légitime, c'est ce meurtre atroce, mais ce que je reproche, c'est de faire le procès d'un racisme systémique qui serait endémique dans la société occidentale et qui serait généralisé, et que cette société, aujourd'hui, nos sociétés occidentales, produiraient ce racisme de façon quasiment industrielle. Mmh. Et je pense que je ne pense même pas que ce soit vrai aux États-Unis, c'est-à-dire que je pense que la peur de la police ne résume pas à elle seule la vie des Noirs américains, et d'autres, quelqu'un comme par exemple Thomas Chatterton Williams, qui a écrit un livre récemment sur Autoportrait en noir et blanc, qui est un Noir américain, raconte que lui refuse justement de se laisser enfermer dans cette lecture victimaire, en disant un Noir américain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peur du matin au soir de se faire tabasser par les flics. Non, ce n'est pas le résumé, même si effectivement il y a toujours des meurtres et qu'il y a une société, il y a une police qui est très brutale aux États-Unis, très violente. Je pense qu'on ne peut pas résumer, on ne peut pas dire qu'il y a un racisme systémique, et je pense qu'on peut d'autant moins le dire en France, et que ceux qui essaient de plaquer par exemple l'affaire George Floyd à l'affaire Traoré en France, en voulant avoir le George Floyd français, se trompe complètement, parce qu'on n'a pas la même histoire, il n'y a pas... Effectivement, on n'a pas eu la ségrégation jusqu'il y a peu, on a un autre modèle, et je suis très méfiante de cette lecture du monde univoque qui consiste à enfermer ce qu'on appelle les identity politics, les politiques de l'identité, qui consiste à dire l'agenda politique doit être déterminé par la souffrance, et il faut faire bloc autour de la souffrance, autour d'une communauté, de la souffrance qu'elle vit, et de déterminer l'ensemble de la lecture du monde et la lecture politique à partir de ça.
Sans doute, mais on peut dire exactement ce que vous dites, tout en combattant le racisme.
Oui, bien sûr. Oui. Évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est évident qu'il faut combattre le racisme, mais je n'ai pas l'impression que nos sociétés encouragent le racisme de quelque manière, de façon que structurelle. Et c'est j'ai exactement la même lecture sur le féminisme. Aujourd'hui, on a un féminisme qui est ultra virulent, alors que jamais, probablement, les inégalités hommes-femmes ont été aussi peu nombreuses. Enfin, jamais la société n'a été aussi égale entre hommes et femmes de l'histoire de l'Occident, et le féminisme n'a jamais été aussi virulent, et je pense que c'est ce même paradoxe qui est en train de jouer. Et évidemment que moi je suis non sexiste, je récuse effectivement tous les comportements sexistes, mais je pense que cette lecture du monde féministe qui consiste avoir une lutte perpétuelle des femmes contre les hommes, jusqu'à où, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il y ait un renversement, peut-être, et qu'on passe du patriarcat au matriarcat, je ne sais pas, mais on dirait que c'est sans fin. Et je pense que c'est profondément délétère, parce que toutes ces visions du monde sont des visions du monde conflictuelles, qui cherchent finalement à renforcer les antagonismes, à lire le monde de façon, dans ce qu'on met un jeu à somme nulle entre dominant et dominé, où finalement... le seul moyen d'aboutir à une société égalitaire, c'est finalement de couper la tête aux dominants. Alors que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, les interactions sociales.
Pendant ce temps-là, en Floride, Donald Trump mijote sa revanche. Hein. On a vu des images de lui dans la presse, sur lui et ses partisans qui ont constitué une espèce de cour autour de lui, en suscitant peut-être un espoir pour eux, en tout cas qu'ils reviennent. Pour vous, quel bilan faites-vous de ces 4 années Trump, où il y a eu des choses très différentes de ce qui avait précédé, et où en même temps, on a vu une Amérique passionnée par la politique, au moins lors de la dernière élection, et pas du tout l'Amérique récusant la démocratie, comme on l'avait dit.
Bien sûr, le taux de participation aux élections américaines, les dernières élections, a été historiquement haut, et ce qui s'est passé, c'est que Trump a fait revenir aux urnes une partie de l'Amérique qui ne votait plus, qui n'était plus intéressée par le jeu politique.
À la fois pour lui et contre lui.
Et contre lui, évidemment, les deux. Il a polarisé, effectivement.
C'était un bon président.
Je pense que déjà, on a parlé du politiquement correct. Trump a été la revanche du politiquement correct, c'est-à-dire à force de taire certains sujets, de criminaliser certains débats publics. Trump est arrivé, il a tout fait sauter avec une outrance extrême.
C'était la désinhibition.
Voilà, c'était la désinhibition extrême et il a gagné grâce à cela. Et effectivement, il n'a pas réussi tout ce qu'il a promis, évidemment. Il a eu beaucoup de déceptions sur beaucoup de sujets, mais il a quand même enclenché ce que Biden est en train de poursuivre, d'ailleurs, c'est-à-dire une rupture avec la mondialisation libérale. Oui. Et une rupture, d'ailleurs, avec l'héritage de son propre parti, qui était un parti...
C'est ambigu, Trump, parce qu'à la fois... Quand même, dérégulation
financière,
voilà, c'est ouais. ça. Et puis, c'est ça, dérégulation financière, oui. baisse des impôts,
oui.
etc.
Donc, mais quand même avec cette rupture mentale quand même extraordinaire, notamment au sein du Parti républicain, mais qui était enclenchée avant lui, hein. Ça a été progressif, mais l'idée que le libre-échange absolu, la concurrence généralisée n'avait pas que des aspects positifs.
Absolument.
Et que la mondialisation libérale n'apportait pas forcément plus
notamment
de...
dans les
plus...
rapports avec la Chine.
Voilà. Et donc effectivement, l'idée d'une rivalité stratégique avec la Chine, et tout ça a été poursuivi par Biden. Il y a des éléments de continuité. Hein. Biden n'a pas finalement fermé, enfin, était en totale rupture. Il continue cette rivalité stratégique avec la Chine. Il continue cette rupture avec le libéralisme qui est vraiment, je pense, le moment de fond de la période que nous vivons. C'est-à-dire, on est en train de fermer la parenthèse néolibérale ouverte dans les années 80 avec Reagan et Thatcher et qui est aujourd'hui en train de se fermer définitivement à cause ou grâce à la crise du Covid. Et Biden est en train de terminer ça en élevant l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, en laissant courir la dette. Là, vraiment, on vit vraiment un moment historique de rupture.
C'est-à-dire que Trump a mis le premier coup de pelle sur le cercueil de Reagan et Biden le second, c'est ça ?
Oui, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, tous les deux en rupture avec l'idéologie dominante de leur propre parti respectif pendant très longtemps. Et effectivement, Biden, je pense que ce n'est pas du tout son logiciel, mais il a été un peu forcé par l'histoire, notamment la crise du Covid, de rentrer dans ce logiciel-là, un peu la même manière qu'Emmanuel Macron en France. Président centriste comme Biden, libéral comme Biden, a été obligé finalement de se soumettre à ce cycle historique, c'est-à-dire du retour de l'État à la faveur de la crise du Covid et à faire finalement les politiques qu'il n'aurait jamais voulu faire, c'est-à-dire laisser filer la dette, retour de l'État dans l'économie, qui sont en rupture complète avec son ADN idéologique.
Cette semaine, la NASA a lancé son opération de conquête de la Lune, la deuxième conquête de la Lune. La première, c'était en 69, bien avant votre naissance. Ça vous parle ? C'est une aventure humaine, scientifique, technologique qui vous semble noble ?
Alors moi, j'avoue que ça m'a jamais fait énormément rêver, la Lune, l'espace, les astronautes. Je suis plutôt terre à terre. Non, d'ailleurs, c'est pas un trait féminin, mais c'est vrai que je suis plus admirative de ce qui se passe sur Terre.
L'idée du progrès technologique.
Moi, ça m'a jamais fascinée aussi, cette idée du progrès technologique pour le progrès technologique, cette course un peu en avant infinie, même si je pense qu'elle est enracinée au cœur de l'homme et qu'on pourra jamais, en fait, l'arracher.
Cet aiguillon, il a aussi produit
l'homme a toujours envie d'aller
positive.
Plus loin, plus haut, plus fort. C'était la Lune, maintenant c'est Mars, etc.
C'est aussi dans un tout autre domaine, les vaccins, la santé.
Oui, mais je préfère quand c'est utile à l'humanité. Et j'observe quand même, c'est ce qui est intéressant, c'est que la conquête de la Lune s'est faite dans le contexte de la guerre froide, et finalement d'une rivalité entre les États-Unis et l'URSS. D'ailleurs, à partir du moment où il y en a un qui a gagné, ils ont un peu laissé tomber leurs programmes spatiaux les uns et les autres. Et là, on retourne dans un monde conflictuel, justement, avec des rivalités stratégiques. De nouveau, on est dans ce rapport de conquête technologique, effectivement, face à la Chine, qui est le nouvel URSS. Et en fait, cette rivalité stratégique crée une espèce d'émulation et une course en avant technologique qui est comparable à celle qu'on a vécue pendant la guerre froide. On verra qui gagnera. Ça va occuper les États-Unis pendant un moment.
Dernière question, Eugénie Bastier. Quel est le meilleur livre que vous avez lu récemment ?
Alors, je vais peut-être vous parler plutôt d'un roman qui est celui de Patrice Jean, qui s'appelle La poursuite de l'idéal, qui a été publié chez Gallimard en janvier dernier, il me semble. Et Patrice Jean, c'est un romancier, il n'est pas extrêmement connu encore, mais pour moi, c'est un des meilleurs romanciers actuels en France.
Et pourquoi ça vous a plu ?
Ça raconte l'histoire d'un poète perdu dans le 21e siècle, et c'est un espèce de roman d'apprentissage. Comment, être un poète un peu désillusionné, qui grandit un peu, qui monte les marches de l'ascension sociale, mais qui a toujours au cœur enraciné ce désir d'être poète dans un monde moderne où la poésie n'a plus aucune valeur, hein, puisqu'aujourd'hui... Les poètes sont des crèves-la-faim et la poésie n'est quasiment plus publiée. Et donc, c'est à la fois quand même un vrai... On le suit dans sa quête, donc c'est un vrai roman d'apprentissage. Et c'est très, très drôle aussi, parce que Patrick Jean est un des rares romanciers qui arrive à être très drôle dans ses romans. Donc, je recommande absolument.
Patrick Jean, quel est le titre ?
La poursuite de l'idéal, chez Gallimard.
La poursuite de l'idéal. Merci, Eugénie Bastier.
Merci à vous, François-Marie.
Amélie, bonsoir.
Bonsoir.
En toute franchise, c'est dans quelques instants.
Et ce soir, deux invités. Nous aurons avec nous le professeur Philippe Juvin. Il est le chef des urgences à l'hôpital européen Georges Pompidou. La situation sanitaire. Mais on s'adressera aussi au maire, qui est maire Les Républicains. On parlera des questions de sécurité. Il envisage peut-être d'être candidat à la primaire des Républicains, à la primaire de son parti. Et puis, à 18h30, c'est Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe Leclerc, qui sera avec nous. Les prix vont-ils augmenter et à quel point, suite à la phase historique de gel qui a touché le pays? Puis, il mène une guerre, et pas seulement celle des prix, Michel-Édouard Leclerc, celle des autotests également, il nous dira pourquoi. Ensuite, le trio Jean-François Kahn, Luc Ferry, Daniel Cohn-Bendit.
On vous suit bien sûr dans un instant, Eugénie Bastier. Merci à vous.
Merci.
C'était
à vous.
Un plaisir de passer cette heure en votre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr dimanche prochain en direct sur LCI, dimanche à 17h, de 17h à 18h. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous.
C'était